chapitre 1, hein, après avoir vu les bénédictions, après avoir vu les bénédictions du Père l'autre semaine, la semaine dernière, on a vu les bénédictions du Fils. Aujourd'hui, on va voir l'œuvre du Saint-Esprit, hein, et tout ça sont des éléments par lesquels nous devons nous accrocher pour faire quoi? Pour envisager notre voyage ici-bas, car vous le savez bien que ce voyage ici-bas est rempli de difficultés. Mais le Seigneur nous a promis que si nous suivons ses enseignements de sa parole, il nous guidera en toutes choses. Aujourd'hui, on va s'occuper du verset 13. On va les voir verset par verset. Hein? Verset 13 et 14, voilà ce qu'on lit dans ce verset. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors pourquoi on va parler du Saint-Esprit? Parce que justement, ici, il nous le dit que le Saint-Esprit, hein, c'est celui qui nous avait été promis lorsque Jésus il avait dit « Je m'en vais, mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Hein. » C'est un gage de notre héritage. Nous avons les arts du Saint-Esprit en nous parce que nous sommes des héritiers, hein, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est tout ça, il nous le dit dans le verset 13. Hein. Et pourquoi? Parce que l'Esprit, c'est la réponse à notre foi. Il nous est dit, on le redit, le verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Le contexte, bien sûr, ici, c'est Jésus-Christ, qui est le centre et l'objet de notre foi. Car c'est en lui que nous sommes bénis, nous avons vu tout ça, bénis, choisis, adoptés, que nous avons la possession du pardon, le privilège de la compréhension, c'est lui qui nous fait comprendre, hein, mais c'est lui qui nous a révélé, comme on a vu la semaine dernière, et le centre aussi de l'appartenance, hein, qu'on a vu la semaine dernière, que nous sommes des enfants de Dieu. En lui aussi, en Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Hein? Et ici, aujourd'hui, nous allons voir en détail, hein, le ministère du Saint-Esprit. Hein? Et premièrement, on va voir, parce que c'est normal, vous savez, on a regardé le Père, on a regardé les Fils, et automatiquement, nous devons voir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les trois personnes de la Trinité qui se sont partagées, hein, cette œuvre du salut qu'Dieu a préparée d'avance, Jésus qui l'a accompli et le Saint-Esprit qui le répand tout autour de nous. Voici quelques remarques sur la venue du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Quelque chose qui s'est réalisé dans la vie de chacun de nous lorsque nous nous sommes approchés du Seigneur. Le Saint-Esprit, premièrement, c'est ce qu'il faut voir, c'est que dans notre dispensation, il est venu aussi sur les non-juifs. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué le changement de pronom dans ces versets. En effet, si vous vous en souvenez bien, du verset 3 au verset 12, Paul, il utilise le mot « nous ». En lui, Dieu nous a bénis, nous a élus, nous a prédestinés. Mais tandis qu'au verset 13, soudainement, Paul utilise le mot « vous ». il veut assurer que le lecteur païen converti en Jésus-Christ, il comprenne bien qu'ils font partie intégrante de la rédemption. Pas seulement les Juifs, mais tous, hein, tous les païens. Nous aussi qui sommes la famille des dieux, hein, et Dieu il dit aux Juifs, vous aussi, vous êtes la famille des dieux, vous êtes le bénéfice de ce salut, même si vous l'avez crucifié. Le Saint-Esprit, il vient dans l'individu. C'est ce qu'il arrive ce qu'il est arrivé dans notre propre vie. Hein. Le Saint-Esprit, il vient dans l'individu, c'est-à-dire à nous, lorsque nous répondons par la foi dans l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est une sorte de contrat que Dieu a fait avec celui qui veut bien signer. Hein? Dieu sauve par l'Évangile. C'est pourquoi il est qualifié l'Évangile de votre salut. L'Évangile de votre salut. Pas l'Évangile pour sauver autre personne, Dieu ou je ne sais pas qui, mais l'Évangile de votre salut. Et Luc 11, 13, il nous le rappelle que le Père, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce qu'il demande le Saint-Esprit? Non, il demande le salut. Et automatiquement, le Saint-Esprit, il vient, il les convainc de péché, il y a la repentance, il y a la conversion, et automatiquement, ils sont sauvés. La venue du Saint-Esprit n'est pas, comme quelques-uns disent, une seconde expérience postérieure au salut, à la conversion. C'est un peu comme les pentecôtistes, vous savez, ils croient en Jésus. Ils sont sauvés, mais ils croient qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit lorsque quelque chose va arriver dans leur propre vie, une nouvelle expérience. Mais toutes ces choses-là, elles sont contraires à ce qu'on peut lire. D'ailleurs, si on lit dans Actes 9, 12 à 17, hein, voilà ce qu'il nous est dit à propos de Paul, vous en souvenez, une fois qu'il s'est converti sur la route de Damas, voilà ce qu'il nous a dit. Il a dit à Ananias, Jésus, Dieu, il a dit au Jésus dans une vision, il lui a dit, vas-y car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui impose, ça c'est Paul qui raconte, hein, excusez-moi, hein, qui lui impose les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour les lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Une petite parenthèse, il ne lui dit pas que je veux lui donner plein de bénédictions. Il lui dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Car chacun de nous, lorsqu'on se tourne vers Jésus, on doit porter sa croix, son opprobre. Voilà pourquoi il continue, il dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Voilà pourquoi le Saint-Esprit, une fois qu'on s'est repenti et converti, c'est là que le Saint-Esprit, il arrive, il prend possession de nous. Et les autres choses qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit, il vient en réponse à la compréhension de la parole divine. Si on n'a pas le Saint-Esprit dans notre cœur, on ne comprendra pas le Saint-Esprit. Car il y a ce verset qui nous dit c'est spirituellement qu'on comprend ces choses. L'évangile, comme je vous l'ai dit, c'est un contrat qui sauve. Mais dans la mesure où il est retenu dans les termes précis. Il faut pas que l'homme y mette sa petite graine, non. Il y a des termes précis que Dieu il a établis. Et si la vérité et c'est ainsi que la vérité est déclarée, par des principes, par des termes précis que Dieu il ne veut pas qu'on change. En Corinthiens 15, 1, 3, il nous a dit qu'est-ce que c'est que l'évangile. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà, si on retient fermement l'évangile, comment il est révélé dans la parole, nous arriverons à comprendre la parole, à avoir cette assurance. Mais si nous changeons quelque chose, nous aurions cru en vain. La clause, hein, pour en citer, la clause ici, il dit que nous devons annoncer l'évangile comme il nous a été dit dans la parole. Quel est l'évangile? Jésus, il est venu ici-bas, il est mort sur la croix, il a été enseveli et il a été ressuscité et il est monté au ciel et maintenant il est assis à la droite de Dieu. C'est ça l'évangile authentique. L'évangile, comme je vous ai dit, c'est comment dirais-je, c'est un contrat qui permet aux hommes d'être pardonnés de leurs péchés. Ce contrat, Dieu il l'a établi, voilà comment il faut être sauvé, et c'est à l'homme de mettre sa signature. Oui, et tout ça, c'est comme vous savez, c'est par la foi. L'évangile, il sauve les pécheurs, ceux qui ont conscience dans leur misère, ceux qui se reconnaissent coupables, ceux qui reconnaissent à eux-mêmes qu'ils sont malades de cette lèpre qui est péché. Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Et tout, et nous, nous sommes malades. Malades du péché. Nous reconnaissons notre misère et nous savons que notre seul salut est en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, il vient lorsqu'une personne, il croit au véritable évangile, à cet évangile. Et il faut que les chrétiennes l'annoncent authentique et dans la clarté. Et pour cela, encore une fois, il faut étudier la parole de Dieu. Car sans ça, on n'arrivera jamais à être clair dans nos explications. Car la vérité est dans la parole, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, comme j'ai dit, il vient lorsqu'une personne choisit de croire. Voilà, c'est la foi. Nous avons ici l'autre côté de la pièce qui a été décrite quelques semaines, vous en souvenez. C'est que Dieu choisit, Dieu nous a élus, selon son choix souverain qui était caché, qui était mystérieux, selon un plan qui avait été arrêté d'avance, avant que le monde existe. On a vu toutes ces choses-là, hein, sans toutefois que ces plans ne diminuent en quoi que ce soit la responsabilité de l'homme. C'est-à-dire que Dieu, il a préparé tout ça, et Dieu, il nous a choisis, il nous a élus, mais il y a le deuxième côté, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Il y a la responsabilité de l'homme. Et c'est à notre liberté d'y adhérer ou pas. L'homme choisit de croire en l'Évangile. Et pour cela, il faut une décision. Hein? Comme je dis toujours, nous sommes venus au monde, soit pauvres, soit riches, n'importe qui, on est né pour prendre une décision. Comme nous sommes des pécheurs, nous devons prendre la décision. Est-ce que je veux être sauvé? Si notre décision est oui, alors on se tourne vers Jésus. Si c'est lui qui dit non, je ne veux pas, celui-là, il est voué à la condamnation. Voilà pourquoi c'est la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. L'homme, il peut choisir de refuser l'Évangile. Et dans 2 Thessaloniciens 1:8, il évoque les jugements qui s'attirent sur eux-mêmes. Il dit qu'ils n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ils attirent sur eux un jugement. Et vous savez, les saluts, ils ressemblent un peu à une auberge, hein, qui porte un panneau et c'est écrit « ouvert à tous ». Mais quand on y entre, on y trouve un badge à son propre nom en disant « élu de Dieu ». Ces deux vérités sont irréconciliables. Si on dit « j'entre », il y a ce badge qui peut se mettre sur nous et dire « je suis un élu de Dieu ». Hein? C'est quelque chose d'irrévocable, irrévocable. C'est une auberge qui s'est ouverte à tous. Vous pouvez tous rentrer, car Dieu désire que tous ils soient sauvés. On a vu que le Saint-Esprit, c'est le sceau de notre héritage. Oui, c'est un sceau, le sceau divin. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Un sceau, il évoque, premièrement, il évoque la propriété. Ce sceau, il indique que nous appartenons à Dieu. S'il nous a scellés, c'est pour que nous soyons pour lui un peuple qui marche selon sa volonté. Oui, ça signifie un sceau, mais ça signifie aussi l'authenticité. L'authenticité, c'est-à-dire que les chrétiens authentique, n'est pas quelqu'un qui suit une religion, comme je l'ai dit dimanche, ou qui va dans une église biblique baptiste. Hein? Non, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui reflète le Saint-Esprit dans sa vie, qui reflète le fruit de l'Esprit, hein? Et il appartient à une famille, mais pas à une famille charnelle, mais à une famille divine, qu'il a un père, et ce père, c'est Dieu le Tout-Puissant, hein, le Père qui nous a donné Jésus-Christ. Alors, il représente la propriété, il représente aussi l'authenticité, mais il représente aussi la protection. Il représente aussi la protection. Et c'est celui qui nous protège, c'est celui qui nous dirige. J'ai lu le livre Marco Polo, je ne sais pas si vous vous en souvenez un peu l'histoire, 13e siècle. Un jour, il a été pris par une patrouille de soldats, hein, à Mongolie. Son père et son oncle avaient fait une course loin du campement et ils devaient revenir assez vite, mais ils ont été retenus, on ne sait pas pourquoi, hein. Donc il était seul. Les soldats mongols étaient réputés pour leur sauvagerie et ils avaient décidé de couper la tête à Marco Polo. Alors il a commencé à pleurer de crainte, mais il s'est souvint que le Genghis Khan, il lui avait donné un sceau, hein. Il lui a donné un sceau. Alors, il s'est souvenu de cela, il a pris ce sceau, il l'a montré, et c'est ça qui lui a sauvé la vie. Le Saint-Esprit, oui, c'est le sceau, et c'est notre protection. Voilà pourquoi nous devons faire attention de ne pas attrister cet esprit, car cet esprit-là, il nous conduit en toutes choses, il nous protège et il nous dirige. Et c'est ça, ça signifie aussi pas seulement la propriété, l'authenticité, la protection, mais ça signifie aussi l'autorité. Ça signifie l'autorité. On n'aime pas beaucoup, on n'aime pas beaucoup ce, ces mots, hein. Mais Christ nous a scellés pour que personne ne nous vole. C'est comme un marquage pour les vélos et l'antivol, vous savez. Hein. On est là et personne ne peut nous voler. Et la Bible nous dit que rien ni personne ne nous arrachera de sa main. Et l'autorité, nous devons le... Je crois que j'ai un peu mélangé les pétales. Ça, c'est l'autorité. Hein? Ça, c'est la sécurité, pardon. Rien et personne ne peut nous enlever les griffes de Jésus-Christ. Et l'autorité, lorsque Jésus a été mis au tombeau, les Juifs, ils ont demandé, hein, que l'on mette un sceau sur les tombeaux. Ils avaient entendu qu'il allait ressusciter, vous en souvenez. Ils avaient peur qu'on vole les corps et qu'on fasse croire à la résurrection. Pilate, il donna des soldats et il fit opposer son sceau. Cela revenait à dire, quiconque rompe ses sceaux s'en prend à l'autorité de Rome. Le Saint-Esprit, oui, c'est l'autorité. Vous voyez combien de choses le Saint-Esprit fait dans notre vie. Hein, c'est quelque chose, ces cinq mots, nous devons les apprendre par cœur pour que nous puissions voir la vraie valeur du Saint-Esprit dans notre vie. C'est-à-dire la propriété, nous appartenons à Dieu. Aussi, nous devons l'authenticité, nous devons être des chrétiens authentiques. La protection, c'est les sceaux qui nous protègent de toutes choses. C'est un peu comme l'armure, vous savez, que le Seigneur nous a donnée, qui nous protège. Ça signifie aussi l'autorité, ça signifie aussi la sécurité. Voilà pourquoi c'est quelque chose que nous devons nous souvenir de ces mots, parce que c'est très important. C'est très important. Si nous avons à cœur que le Saint-Esprit et toutes ces choses-là, nous allons être dans la meilleure disposition pour pouvoir continuer ce cheminement. Le Saint-Esprit, il est venu comme il a promis Jésus-Christ. Hein? Jean-Baptiste, vous en souvenez, lorsque il a vu Jésus s'approcher, hein, pour être baptisé de lui, il a dit, lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu, hein, dans Luc. Et dans Jean 14, hein, lorsque il a promis la venue du Saint-Esprit, en particulier pour les apôtres, pour qu'ils puissent reporter, hein, par écrit la parole de Jésus, hein, c'est lui qui les a inspirés. C'est une fois que le Saint-Esprit est venu qu'ils ont pu écrire toutes les lettres et les évangiles. Dans Jean 20, 22, Jésus souffla sur les disciples et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais comme nous l'a dit Jean-Pierre dimanche dans sa présidence, il a dit, le Saint-Esprit, il l'avait, mais il devait attendre la puissance. Et lorsque cette puissance est venue, ils ont été utilisés pour écrire toutes ces choses-là. Jésus, c'est la promesse de Jésus dans Actes 1, 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cela veut dire que si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner. On ne peut pas témoigner. Hein? Si on n'a pas la foi, le Saint-Esprit, il ne peut pas venir à nous. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas témoigner. Mais si vous avez la foi, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit, et vous serez témoins. Ce sont des promesses, toutes ces choses-là. Non des réalisations, car Jésus, il l'avait prévenu. Hein? C'est des promesses, vous recevez cette puissance, vous en souvenez. Jésus, il a dit, lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai. Hein? Mais cette réalisation, il est arrivé à la Pentecôte. À la Pentecôte. Et tout ça, il nous est raconté dans Actes 2. Vous connaissez tous cette histoire. Hein? L'Esprit qui descend sous les 150 disciples. Hein? Et il lui dit, dans des langues étrangères, hein? et ces langues-là, ils louaient Dieu. Tout le monde les a compris. C'est pas les parler en langue qu'on ne comprend pas. C'est en langue qui existait. Voilà pourquoi il nous est dit qu'il y avait des gens venus de toutes les nations pour louer Dieu. Et tous ces gens-là, ils se sont dit, mais comment les entendons-nous parler? Hein, dans notre propre langue, car ils étaient des Judéens. Donc, à cette époque-là, ils étudiaient pas les langues comme ça, hein. Hein, mais ils proclamaient la louange de Dieu. Ils proclamaient la gloire de Dieu. Et tout cela, vous connaissez bien, c'est bien expliqué dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit, il vient pleinement sur celui qu'il croit, sur celui qu'il croit, et pas sur celui qui ne croit pas. Hein. Toutes les bénédictions mentionnées jusqu'ici sont au bénéfice du chrétien par et en Jésus-Christ. Des moments de la conversion, du moment où est-ce qu'on s'est converti, de ces moments-là, toutes ces bénédictions, il tombe sur le chrétien. Le Saint-Esprit il vient dans le croyant au moment où il croit. Donc, il n'y a pas une autre manifestation. Il n'y a pas de choses qui vont arriver par la suite. Non, au moment où est-ce qu'on a la foi, c'est là que le Saint-Esprit, il vient dans notre cœur. Que faut-il? Que fait-il alors une fois qu'elle est dans notre cœur? Quelle est notre responsabilité à son égard? Parce qu'encore une fois, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme, notre part. Et cela nous est dit dans le verset 14. Et il nous est dit, en qui, dans le Saint-Esprit, qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit, selon ce verset, il sert de caution ou encore de garantie par la suite. Et il y a bien plus que simple pardon de nos péchés. Il y a beaucoup plus. Beaucoup et à venir. Nous avons reçu à la personne du Saint-Esprit, sa présence, son ministère, pas seulement le pardon de nos péchés, mais sa présence à nous-mêmes. Vous êtes les temples du Saint-Esprit et le ministère qui œuvre pour nous. Ne vous occupez pas de ce que vous allez dire ou faire. Le Saint-Esprit, il vous le dira lorsque il faut le faire. Hein? Et dans 2 Corinthiens 1, 22, il nous est dit, il a mis dans nos cœurs les arts du Saint-Esprit. Pourquoi il a mis ça? Les arts, c'est un peu comme lorsqu'on va au restaurant, vous savez, pour réserver une table. Hein? Cette table nous est réservée, il faut donner des arts. Cette table nous est réservée. Le restaurant, il peut être plein, plein, plein. Cette table nous est réservé. Voilà pourquoi c'est les arts. Pour faire quoi? Pour les jours de la rédemption. Pour les jours de la rédemption. Dans Romains 8, 11, il nous est dit que l'Esprit Saint donnera vie à votre cas, à votre corps. Quand c'est qu'il y aura cette rédemption? Lorsque notre corps, il sera ressuscité, alors il va se unir à notre âme et c'est là la vraie rédemption. Pour rendre ce corps qui est corruptible parce qu'il est mort, mais en le ressuscitant, en lui donnant la rédemption, il deviendra incorruptible. Pourquoi quelqu'un dira pourquoi il nous a donné juste les arts et pourquoi il nous a pas donné tout? C'est vrai qu'il aurait été plus sympathique, n'est-ce pas? En fait, comment ça fait-il que Dieu, hein, comment ça fait-il que Dieu nous ait donné, hein? Non, voilà, là, je l'ai mal exprimé. Il y a des gens qui se demandent pourquoi il nous a donné que les arts. Il aurait été plus tranquille pour nous, quoi. Mais la vraie question, c'est pourquoi Dieu, il nous a donné quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'il nous a donné cela, Dieu? Est-ce que nous avons fait quelque chose? Nous n'avons rien fait. Pourquoi il nous a donné ce Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que l'homme, il sent plus profondément, son besoin de Dieu. Lorsque, en partie, il est dérangé par ses propres péchés, par son propre manque, par sa propre misère, son besoin de Dieu. Et alors, voilà pourquoi il nous a donné juste les armes, pour que nous puissions constamment nous tourner vers lui et le prier de venir à notre secours. Parce que lorsque nous nous tournons vers Dieu pour cet esprit, d'ailleurs il nous l'a dit, priez le Seigneur pour qu'il vous accorde le Saint-Esprit. Il faut pas mal interpréter ce verset en disant que il faut prier pour recevoir le Saint-Esprit. Non, mais prier pour que cet esprit, il nous parle, il nous guide, il nous montre ce que nous devons faire. Et cet esprit, il est là pour cela. Hein? Voilà pourquoi cette garantie, cette caution, c'est un prépaiement. Et pas seulement ça, mais c'est beaucoup plus. Il nous donne cette assurance, cette garantie. Hein? Et encore, on peut se demander, quel est le ministère que le Saint-Esprit il accomplit dans la vie, dans notre vie, dans la vie des chrétiens, dans la vie de tous ceux qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus à cause de leur misère. Et c'est un esprit, premièrement, le premier ministère qu'il fait le Saint-Esprit, il a lieu avant la conversion, hein, avant la conversion. Dans Jean 16, 8, il nous est dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est le Saint-Esprit qui donne cette conviction d'un problème spirituel. Hein? Et ce problème-là, cette compréhension que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin du salut, il nous amène vers Dieu. Donc son ministère, il commence avant la conversion, car c'est lui qui nous juge. Le ministère du Saint-Esprit, il s'accomplit à la conversion. Dans Tite 3, il nous est dit le bain de la régénération et le renouveau de l'esprit. C'est-à-dire que le bain de la régénération, c'est la naissance de nouveau. Dans Jean 3, 5, il nous est dit, il nous fait naître d'en haut pour pouvoir faire partie du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous faisons partie de la famille terrestre. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, nous changeons de famille. Nous appartenons à la famille de Dieu. Et tout ça, il commence à notre nouvelle naissance. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvelle naissance. Hein? C'est naître de nouveau. Bien sûr, un peu comme Nicodème, vous connaissez ce qu'il a dit. Est-ce qu'un homme peut-il rentrer encore dans le ventre de sa mère? Mais Jésus lui dit, c'est d'en haut qui vient cela. Et la nouvelle naissance, nous n'avons aucune part dans cette nouvelle naissance. Tout vient de Dieu. Voilà pourquoi ce ministère, il s'accomplit à la conversion. Un autre ministère, ce ministère du Saint-Esprit, c'est que il accompagne tous les chrétiens dans ce désert dans lequel nous sommes. Dans Romains 8, 14, il dit, il conduit les chrétiens. Versets 15 et 16, il témoigne que nous sommes des enfants de Dieu. Jean 14, 26, il est le don du Père et du Fils pour être le consolateur. Et 14, 17, dans Romains, il dit, il nous donne la joie, la justice, la paix et la joie. À un moment donné dans la vie du Christ, nous avons lu, il nous dit dans Luc 10, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie au baptême, hein, par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ceux que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligences, et de ceux que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je t'ai lu de ce que tu as voulu. Ce n'est pas au baptême, mais c'est dans Luc 10, 21. Cette joie que le Saint-Esprit, il amène dans notre cœur, cette joie qu'il amène dans notre cœur, c'est une joie profonde et c'est une joie immédiate. Immédiate, c'est lui qui répand de l'amour de Dieu à nous. Hein? Vous vous souvenez ce que le Seigneur avait dit, je crois que c'était à Éphèse, c'est ce que j'ai contre toi, ce que tu as perdu, ton premier amour. C'est lorsque l'Esprit vient à nous qui répand toutes ces choses-là, hein? Et c'est l'Esprit qui les manifeste immédiatement. Dans Galates 5, 22, il engendre l'amour, la joie, la patience. C'est le fruit de l'Esprit. Hein? Un verset qui est très cher à notre frère Roland. Hein? Dans Romains 5, 5, il dit, il répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Romains 15, 13, il fait abonder en espérance. Galates 5, 5, il nous donne l'espérance de la justice. Dans Jean 14, 26, il nous enseigne dans la vérité. Marc 13, 11, il nous donnera de quoi nous défendre devant nos agresseurs en toutes choses. En Jean 4, 13, il est la preuve que nous appartenons à Dieu. Si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu. 2 Timothée 1, 14, il nous fait garder les bons dépôts. Hein, comme Paul, je sais en qui j'ai cru et j'ai gardé les bons dépôts. C'est le Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit. Éphésiens 3, 16, il fortifie puissamment notre homme intérieur. 2 Timothée 1, 7, 8, il nous donne un esprit de force, d'amour, de sagesse. Jean 15, 26, comme on a dit, il est le consolateur, l'esprit de vérité. Il rend témoignage à Jésus. Il rend témoignage à Jésus. Voilà pourquoi des fois quand j'entends des chrétiens qui prient le Saint-Esprit, j'ai honte pour eux. Hein? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est venu pour glorifier Jésus-Christ. On ne prie pas le Saint-Esprit, on prie Jésus-Christ. On prie Jésus-Christ. Le ministère, c'est un ministère aussi qui, pour édifier l'Église. L'Église, elle a besoin du Saint-Esprit, car c'est lui qui conduit l'Église. Hein? Pourquoi? Parce que le chef, c'est Christ, c'est pas le Saint-Esprit. En Corinthiens 3, 16, il dit que les chrétiens d'une assemblée, lorsqu'ils sont réunis, ils forment son temple. Nous sommes le temple de Dieu. Apocalypse 2, 7, il invite l'Église à écouter la parole de Dieu. Il invite l'Église. Et tout ça, c'est pour le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3, 16, il a inspiré les Écritures. C'est lui, le Saint-Esprit, qui l'a fait tout cela. Acte 9, 31, il assiste l'Église. Ok, on finit ça et on s'arrête. Il assiste l'Église dans sa progression et dans son attitude. Acte 11, 12, il instruit l'Église pour son orientation missionnaire. C'est lui qui envoie, c'est lui qui dit aux responsables d'envoyer. Vous en souvenez, Antioche, mettez-moi à part. Hein? Et dans Acte 20, 28, il établit les évêques, les pasteurs dans une assemblée. C'est lui qui les établit. Il faut qu'il y ait l'appel du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 12, 7, et ensuite on s'arrête, on se reconnaît, il donne les compétences pour toute l'Église. Hein, avec des hommes, par les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, et tout cela pour instruire l'Église. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Alors, on va s'arrêter.